France Culture.
Bonjour le Book Club, alors j'ai découvert Sido et les Vrilles de la Vigne en première à 17 ans et c'est une lecture qui m'a d'abord marqué parce que Colette nous parle de la nostalgie et à 17 ans on est dans cette transition entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte, c'est un sentiment qu'on commence à ressentir et qu'on comprend pas forcément.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le Book Club continue de vous accompagner dans les révisions des épreuves du bac français avec deux ouvrages de Colette au programme cette année, Les Vrilles de la Vigne, recueil de textes de diverses natures, paru en 1908 et étoffé en 1934, et Sido, paru en 1930. Pour les élèves, les deux textes sont réunis dans le parcours thématique dit de la célébration du monde. Indépendance, ville-campagne, jardin personnifié, rossignol chanteur, filiation, amitiés animales, on va parler de tout cela et évidemment de la langue poétique de l'autrice française née en 1873 et morte en 1954. Et ensuite, on trouvera comme chaque semaine Mathilde Wagman, attentive pour nous aux parutions jeunesse. Elle évoque un premier livre où l'aventure se dispute entre un long week-end en canoë-kayak et tout simplement la littérature. Et puis nous jouerons enfin à chercher trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Un jour, ce sera peut-être une épreuve du bac. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Et évidemment, ici au Book Club, on se concentre sur le bac français, mais sachez que tout Radio France propose cette année plus de 800 podcasts pour accompagner les révisions sur de nombreuses thématiques, le français donc, mais aussi la philo, l'histoire géo, la géopolitique, les sciences politiques, les sciences économiques et sociales, les humanités, la philo, les arts, la musique. Vous êtes chanceuses et chanceux, c'est à retrouver sur la page Réviser le bac 2025, tout simplement sur radiofrance.fr. Bonjour Marie-Astrid Claire.
Bonjour.
Vous êtes professeure agrégée de lettres modernes, vous enseignez à des futurs professeurs à l'INSPE à Paris. Vous avez fait paraître Sido et les Vrilles de la Vigne, première bac française. C'était chez Nathan en août 2022. Merci beaucoup d'être ici dans le Book Club. Et puis, dans d'autres heures, moins académiques, vous animez une super chaîne YouTube qui s'appelle Le Français, c'est clair. Jeu de mots avec votre nom de famille, où vous dispensez, vous partagez quelques conseils, notamment méthodologiques, autour de ces épreves de français. Bonjour Corentin Zurlotruche.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Vous êtes professeur en lettres modernes, vous êtes docteur en littérature. Il y a quelques années, vous aviez soutenu une thèse sur l'œuvre de Colette et puis vous avez participé à des nouvelles éditions des œuvres de Colette dans la collection notamment Folio Classique. Merci infiniment d'être ici avec nous. C'est chouette que vous soyez réunis parce que voilà, ce sont des émissions un petit peu particulières pour le Book Club où on a la double ambition de faire une émission, j'ai envie de dire, comme d'habitude, sur les textes, sur le partage des textes. Et puis là, un petit peu plus tourné vers celles et ceux qui vont passer le français cette année, les épreuves de français cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Colette, de sa biographie, des éléments dont nous aurions besoin pour ensuite apprécier ou discuter les textes littéraires dont on va s'occuper aujourd'hui?
Oui, ben on pourra commencer par rappeler que Colette est une déjà grande écrivaine, au sens où elle a publié une œuvre qui est quand même considérable par la taille. Elle s'étend de 1900 à 1954, et cela faisait même dire à Cocteau qu'elle était une fontaine d'encre, quasiment inépuisable. On rappellera également qu'il y a dans son œuvre une diversité générique qui est assez importante, du roman, une très grande carrière journalistique, mais également un passage par le théâtre, par le cinéma également. Donc vous voyez, elle a touché à différents médiums. Les deux œuvres qui nous occupent touchent en fait à deux grandes périodes de la vie de Colette, les années 1905, 1908, 1910 à peu près, et les années 1920, 1930, là où elle est au sommet de sa gloire.
Alors si on commence par cette première période, 1905-1908, c'est un tournant à la fois littéraire et personnel. Pour Colette, là encore, qu'est-ce qu'on peut en dire qui nous sert ensuite à analyser le texte ?
Je pense que la première information et le premier détail qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Colette est une femme qui commence à écrire en collaboration avec un mari. Et donc, à partir de ce moment-là, l'œuvre est en quelque sorte un peu double. Elle va tourner autour de cette espèce de mécanisme d'invisibilisation. Parfois, on revendique la paternité d'une œuvre, mais elle ne le fait pas tout à fait de suite. Ce qui fait que les Claudines paraissent de 1900 à 1900.
Claudine, c'est une série d'autres textes qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais ce sont des textes très importants dans l'œuvre de Colette.
Exactement, des textes très importants. Et elle finit par s'émanciper de la figure de son mari pour écrire ses propres textes. Et donc, aux alentours de 1905-1906, il paraît qu'il n'y a qu'un seul territoire sur lequel elle peut véritablement s'émanciper, c'est la scène de théâtre, le musical. Et elle va devenir, à ce titre, une grande mime de son époque, puisqu'elle s'exercera dans la pantomime. Mais en même temps, elle pratique abondamment le journalisme et aussi l'écriture romanesque. Elle fait paraître un premier roman qui s'appelle « La retraite sentimentale » en 1907, puis le très grand roman qu'il a fait connaître, « La vagabonde » en 1910.
Et là, elle va signer de son nom, c'est ça qui change. Et il y a une forme de divorce à la fois du point de vue des lettres et du point de vue amoureux.
Pas au niveau de la signature, mais si vous voulez, au niveau des consciences, tout le monde sait que petit à petit, elle s'émancipe et donc qu'elle est séparée de Willy, qu'elle divorcera par la suite en 1910, mais bien évidemment qu'elle est une autrice accomplie et seule à apporter son œuvre.
J'ai prononcé ce mot d'émancipation dans l'introduction. C'est un mot qui est important quand on pense à l'œuvre de Colette. Est-ce qu'on peut dire un mot justement du fait qu'elle va divorcer de ce mari? À quel point c'est quelque chose qui est signifiant à cette époque-là pour une femme et peut-être aussi pour une femme de son origine? On n'a rien dit de là où elle est née et dans quel milieu. On peut dire quelques mots là-dessus?
Bien sûr. Elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne, dans un petit village reculé, enfin un peu loin de Paris. Et elle va faire, par l'intermédiaire de sa famille, la rencontre de ce Willy, donc, qui va, par le mariage, après l'amener à Paris. Mais, si vous voulez, elle est en quelque sorte une écrivaine ancrée dans un territoire et en même temps très ancrée aussi à Paris. L'émancipation va être véritablement une émancipation économique, une émancipation aussi intellectuelle, puisque grâce à Willy, elle va côtoyer différents cercles artistiques, différentes personnalités, et aussi émancipation au niveau de ce qu'on pourrait dire de la sexualité, des identités sexuées, puisqu'elle est à ce moment-là, à partir de 1905-1906, en couple avec une femme.
Est-ce que ces choses-là qu'on vient de dire, Corentin Zurlautruche, pendant l'épreuve du bac français, il est bon pour les élèves de les avoir très clairement en tête et d'être capable de les exposer brièvement comme vous venez de le faire, ou est-ce qu'il faut être plus bref ou est-ce qu'il faut être plus détaillé?
Alors, je dirais qu'il faudrait être peut-être bref ou peut-être un peu plus bref. En tout cas, les avoir en tête me semble être une très bonne chose pour apprécier la qualité littéraire de ces textes-là, qui sont au fond des textes qui prennent le contre-pied de la biographie ou qui jouent ou qui rusent avec la biographie.
Qui jouent, on va y
Donc,
venir.
Il faudrait les avoir en tête pour justement comprendre comment elle-même a rusé avec les données biographiques. Et comment elle-même s'est accaparée l'écriture comme un espace véritablement de liberté ou de réinvention.
Vous l'avez dit, ce sont deux périodes importantes, mais néanmoins très distinctes dans la vie et dans la production littéraire de Colette. Elles sont réunies là, en fait, artificiellement, puisqu'on est au tout début, donc c'est 1908, c'est ça, L'Évrille de la Vigne, et 1930, Sido, avec une augmentation du recueil, on va y venir, L'Évrille de la Vigne en 1934. Le fait de les réunir et de les réunir dans un parcours thématique, ça a quoi comme sens, Marie? Street-Claire.
À vrai dire, l'ordre dans lequel ces textes ont été donnés, c'est Sido et L'Évrille de la Vigne, parce que l'édition sur laquelle se sont appuyés
C'est celle de 34.
Disons que c'est l'édition du livre de poche, je crois, qui dit dans sa préface que effectivement, ça a été rassemblé d'une manière antéchronologique et que ce sont deux œuvres qui n'ont, à vrai dire, pas grand-chose ou assez peu de points communs. Même si, bien sûr, on peut tisser certains fils, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et par ailleurs, c'est justement ça qui rend, à mon avis, une dissertation très riche, parce que justement, ce parcours associé qui est la célébration du monde et ses textes et la polysémie du mot monde, parce qu'à vrai dire, on devrait parler plutôt des mondes de Colette, puisqu'elle célèbre bien sûr la nature, les animaux,
les bêtes. Ça peut être un petit tips pour un début de dissertation. Ça pourrait dire plutôt que de parler de la célébration du monde, parlons de la célébration des mondes de Colette, ça peut être une entrée en matière, par exemple.
Oui, ça peut aider aussi à construire un plan de dissertation, je pense, de jouer sur la variété de ce terme, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette célébration du monde? On va quand même garder la formulation du ministère. Et comment est-ce qu'en fait, on peut les rapprocher? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un élève ou une élève de se servir de cette formulation thématique pour entrer aussi dans le commentaire de ces textes?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les œuvres au bac sont proposées avec un parcours associé qui va permettre au professeur de, s'il choisit par exemple l'œuvre de Colette, de faire résonner cette œuvre avec d'autres œuvres. On peut choisir les magnifiques histoires naturelles de Jules Renard par exemple, ou des textes plus contemporains. Je sais que certains se sont servis de Valentine Gobi, L'île haute, pour le faire résonner avec Colette. Donc c'est vrai que la célébration du monde, on voit bien que justement, c'est pas les mondes de Colette, c'est le monde physique, mais aussi les mondes parisiens.
Il faut l'entendre par le vivant, Ah non, d'accord. Les mondes parisiens aussi.
Bah, moi, j'aurais tendance à, effectivement, à jouer sur la variété de ce terme. C'est-à-dire que c'est, oui, le monde, la nature, bien entendu, les bêtes, les animaux qui sont aussi présents dans ces textes. Mais on peut aussi imaginer qu'effectivement, on puisse se servir des textes comme dans Les Vrilles, il y a un texte qui s'appelle Music Hall, par exemple, ou Maquillage, qui évoque aussi... voilà, donc c'est à la fois la nature, mais aussi le petit monde de Colette avec sa famille, hein, bien sûr, ça, c'est tout.
Et puis les antagonismes, ou en tout cas le dialogue entre plusieurs mondes, parce que se joue aussi l'idée d'un ville-campagne, on l'a entendu un tout petit peu lorsque vous parliez de sa rencontre avec Willy et la manière dont il participe à son émancipation de son milieu d'origine. Et puis il y a quelque chose qui miroite aussi, on l'entendra tout à l'heure dans Sido, avec l'attirance qu'a la mer pour aussi la ville. Il y a quelque chose de la ville qui est au loin, qui est aimé, qui est rejeté. Donc il y a ces mondes-là aussi d'une certaine manière, Marie-Astrid Claire.
Absolument. Oui, oui. Et puis c'est vrai que moi, c'est un conseil que j'aimerais donner aux élèves, c'est de profiter de l'endroit où ils se trouvent pour aller visiter les mondes liés à Colette, mais physiquement, c'est-à-dire faire un tour à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Enfin, c'est un ravissement absolu. La maison de Colette se visite et c'est très intéressant. Si on est parisien, on peut aller au Palais Royal voir
l'appartement.
Exactement. On peut aller dans la Somme, là où elle a écrit plusieurs textes quand elle était avec Missy. Enfin voilà,
on peut juste aller aussi sur Internet. Non, mais c'est vrai, absolument. Ça peut être aussi bien d'avoir, par exemple, quelques images. Ça aussi, finalement, tout ce qui peut enrichir, pas pour faire des ponts, parce qu'on y viendra, il y a là aussi une ligne de crête entre la véracité biographique et puis ce qui se passe pour Colette dans la littérature, mais avoir des images, ça peut enrichir, ça peut éventuellement donner cher à la manière dont un élève ou une élève va s'emparer des textes. On y va, on entre dans les textes, on commence par Les Vrilles de la Vigne. Donc, elle a dit, il y a deux dates qui sont associées aux Vrilles de la Vigne, 1908-1934. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce... Est-ce qu'on peut dire que c'est un recueil ?
À vrai dire, c'est un recueil puisque c'est une compilation d'articles en réalité qui ont été plutôt écrits entre 1905 et 1908 dans trois revues, me semble-t-il, et donc qui ont été collectés, qui ont été agencés à plusieurs reprises par Colette qui est revenue sur l'organisation de son recueil et qui effectivement a ajouté des textes qui sont.
Il y en a quatre ou cinq qui sont ajoutés, je crois, en 1934, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça.
Et donc on les imagine comme des articles et ou des tableaux. Moi, j'ai aussi dit des textes composites.
Alors, c'est vrai que dire des articles, ça donne
un peu
une idée.
Ouais.
Non, mais ça donne surtout une drôle d'idée parce que pour les élèves, un article, c'est quelque chose comme un reportage, alors que là, ça n'a rien à voir. C'est plutôt des textes qui ont été publiés dans des revues et qui sont parfois. Alors, il y a un texte où un narrateur ne peut pas être Colette puisque c'est la dame qui chante, qui est le narrateur est masculin, mais tous les autres textes sont des narratrices qui ressemblent pour certaines beaucoup à Colette, voire qui sont Colette ou en tout cas qui dialogue avec Claudine, par exemple. Donc, on a effectivement une série de textes qui peuvent se rapprocher, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes, par exemple, les magnifiques textes au début de... Après le texte qui s'appelle « L'Ivrie de la Vigne », il y a trois textes dédiés à Missy.
Un amour.
À son amour, effectivement. Et c'est des textes d'une sensualité magnifique.
Donc ça, c'est un des thèmes, si on devait dégager des thèmes comme ça, dans ces espèces de micro-récits, micro-nouvelles, tableaux, on choisira le mot. Ça, c'est adéquat, par exemple, pour décrire les formes, vous diriez ?
Moi, j'ai l'impression parfois, mais c'est valable aussi pour Sido, que on a l'impression d'un album, vous savez, au sens ancien, album photo, un peu pour Sido, album Herbier parfois.
Donc la thématique de l'amour et de l'amour avec Missy. On va revenir sur Les Vrilles de la Vie qui donne son titre au recueil. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore qui pourrait être une sorte de fil thématique dans ce livre-là ?
Alors les dialogues de bêtes avec le dialogue entre Toby. Chien et Kiki la Doucette. Donc, c'est des textes animaliers, mais il y a un texte que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Nonoche et qui décrit sa chatte qui a son petit chaton auprès d'elle et puis qui part, qui cède à l'appel du matou et qui donc quitte. Mais c'est vraiment, ça donne l'impression d'une vignette, vraiment d'une description, mais d'une grande beauté très poétique, une description du monde, d'un monde qui lui est très familier, animalier. Et donc c'est vrai que quand elle fait dialoguer son chien et sa chatte, ce qu'on imagine être son chien et sa chatte, c'est vrai que ça semble, il faut une suspension de l'incrédulité. Et
dans
un premier temps, quand on lit ça, on se dit dis, bon, oui, bizarre. Mais c'est vrai que finalement, elle a tellement, je pense, vécu avec ces animaux, les bulldogs et les chats qui font partie de son univers, quoi.
Et puis la langue l'emporte, il y a aussi cette expérience-là. C'est-à-dire qu'au-delà même de cette suspension du contrat de crédulité qu'on doit faire et puis de cet aspect thématique, il y a ce qui se met en place à ce moment-là dans le parcours de Colette, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est son écriture.
Oui, tout à fait. C'est son écriture. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que dans Les Vrilles de la Vigne, on a à la fois la présence, l'omniprésence d'un corps, mais l'omniprésence d'une voix. C'est à l'époque où elle est sur scène, en train de s'exercer à la pantomime, et donc en train de pratiquer une activité silencieuse.
Donc c'est presque une polyphonie qu'il y aurait dans Les Vrilles de la Vigne.
Et c'est exactement ça, puisque par l'écriture, en fin de compte, elle va mettre en scène différentes scénettes très théâtralisé, on a une abondance de voix et on se rend compte en fait qu'il y a là un paradoxe constitutif de l'œuvre. Et je pense que là les élèves l'auront remarqué, en feuilletant seulement, effectivement, on retrouve de l'album, on retrouve de la mosaïque, on retrouve quelque chose de très émietté, mais comme l'est sa vie personnelle à ce moment-là. C'est-à-dire une subjectivité qui est quand même en train de devoir se reconstruire par elle-même.
Et alors d'ailleurs, on y vient, c'est Vrilles de la Vigne, le petit texte qui ouvre le recueil, puisque vous parlez de voix, il faut dire quelque chose de cet oiseau. Qui est-ce qui veut se lancer dans la description allez-y, je vous en prie, dans la description de cette nouvelle qui donne cette nouvelle? Oui, de ce court texte qui donne son titre au recueil.
Effectivement, un court texte qu'on a très tôt, que la critique a très tôt nommé l'allégorie du rossignol, c'est-à-dire une sorte de poème en prose dans lequel le rossignol va allégoriser la libération d'une voix à la fois poétique et d'une voix personnelle. On y a reconnu là, en fait, le cri d'indépendance de Colette, qui, au début du recueil, a fait exprès de choisir ce texte éponyme comme porte d'entrée dans un univers où justement la parole se libère, mais le corps aussi est amené à se libérer de ses entraves.
Et c'est très beau parce que ça passe par ces vrilles de la vigne, qui pourrait être un titre qui apparaît mystérieux et qui alors on dit, je vous en, vous dites ce qui se passe dans la nuit pour cet oiseau.
En fait, cet oiseau se fait piéger d'une certaine manière par les vrilles de la vigne amère qu'il
donc les branchages quoi,
exactement,
la pousse, ouais.
Viennent l'encercler effectivement, et donc pour échapper à cette emprise, l'oiseau chante et parvient à se libérer. Et donc effectivement, dans un second temps de ce texte, la narratrice revient en disant. Effectivement, j'ai jeté tout haut une plainte qui m'a révélé ma voix, donc elle se libère et effectivement et elle laisse entendre sa voix.
Est-ce que les élèves peuvent le jour de l'épreuve du bac, quelle que soit la forme que prend cette épreuve-là, donc on ne l'a pas précisé jusqu'à maintenant, mais il y a une dissertation, un oral ou un dialogue, c'est ça ?
Oui, entretien.
Un entretien. À tout moment, ils peuvent, parlant de ce recueil-là, Les Vrilles de la Vigne, faire le parallèle absolu entre le rossignol qui trouve sa voix et Colette à ce moment-là ?
Oui, je pense
Tout le monde est d'accord. Et ben, on va entendre la voix justement de Colette dans une archive de 1950 où elle va parler d'un motif extrêmement important dans son œuvre, sa maison.
De toutes les maisons que vous avez habitées, vers laquelle retournent le plus volontiers vos souvenirs ?
Oh, ma maison natale, naturellement. C'est une maison de village à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens. Des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Regarde, en respirant le filtre qui abolit les années. Regarde comme moi ressusciter et grandir devant toi les printemps de ton enfance. Je revois des prés, des bois profonds que la première poussée des bourgeons embrume d'un vert insaisissable. Des ruisseaux froids, des sources perdues, bues par le sable aussitôt que nés, des primevères de Pâques, des jeannettes jaunes au cœur safrané et des violettes. Je revois une enfant silencieuse que le printemps enchantait déjà d'un bonheur sauvage, d'une triste et mystérieuse joie. Une enfant prisonnière, le jour, dans une école et qui échangeait des jouets, des images contre les premiers bouquets de violettes des bois, noués d'un fil de coton rouge, rapportés par les petites bergères des fermes environnantes. Violettes à courte tige, violettes blanches et violettes bleues, et violettes d'un blanc bleu veiné de nacre mauve, violettes de coucou anémiques et larges qui haussent sur de longues tiges leurs pâles corolles inodores. Violettes de février, fleuries sous la neige, déchiquetées, roussies de gel, laideronnes, pauvresse parfumée. Ô violettes de mon enfance, vous montez devant moi toutes. Vous treillagez le ciel laiteux d'avril et la palpitation de vos petits visages innombrables m'enivre. On reste dans les vrilles de la vigne avec cet extrait à l'instant d'un texte qui s'appelle « Le dernier feu ». Juste avant, on entendait la voix parce qu'il fallait quand même l'entendre. On a ces archives si riches avec cet accent où elle parle de la maison d'enfance, de son de l'arrêt de son enseignement scolaire. « Vous n'allez pas me mépriser », dit-elle avec humour. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dernier feu, extrait que vous avez choisi qu'est-ce qu'on entend ici dans le texte que l'on pourrait commenter, Marie-Astrid Claire?
C'est le dernier donc des trois textes dédiés à Mathilde Morny, alors d'une manière très discrète puisqu'il est marqué pour M.
M.
Mais effectivement c'est un chant d'amour heureux, sensuel, c'est le dernier feu avant le printemps, dont il est question dans ce texte-là. Et c'est vrai que c'est cet aspect herbier, c'est pas seulement un herbier en fait là dont il est question, c'est-à-dire que l'herbier, les fleurs sont séchées, alors que là c'est comme si elles
reprenaient
vie, on sent vitalité. Leur odeur, etc. Et donc c'est vrai que c'est une sorte de réminiscence qui la ramène à l'enfance et qui me semble tout à fait dans l'enjeu, la célébration du monde. Là on voit qu'elle célèbre la beauté des fleurs.
Partout, par les couleurs, par leurs mouvements, par leurs descriptions précises. Peut-être ce qui est intéressant, puisque vous évoquez la réminiscence, Marie-Astrid Claire, c'est que c'est à la fois le présent, déclaration d'amour pour cette femme qu'elle aime, mais aussi retour permanent vers l'enfance, comme si sa manière de vivre le présent était aussi une façon d'être toujours en mesure d'y réinjecter du passé d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. C'est en fait le terme réminiscence, je pense, peut nous conduire à observer le mécanisme de ce texte-là, qui est à quelques années avant du côté de chez Swann de Proust.
Oui, on pense à Proust.
En fait,
ouais.
L'inverse, c'est-à-dire une mémoire volontaire qui va, à partir du présent, exhumer le passé, en rechercher la densité, la matérialité, et qui va même le porter jusqu'au nu, puisque le texte se termine avec ces violettes qui imprègnent complètement le ciel et en fin de compte, l'enivre complètement. Ils sont devenus une sorte de... Enfin, le microcosme est devenu le macrocosme, le monde entier.
Il y a une interpénétration à la fois des temporalités, passé, présent, mais aussi des dimensions, comme vous le dites, micro et macro, parce que d'un seul coup, ces violettes ont des corps. D'ailleurs, elles sont personnifiées, comme le sont aussi les jardins dans plusieurs des textes. Ils peuvent agir, bizarrement, les plantes peuvent agir, on les sent presque actives, capables de raconter, on pourrait dire qu'elles sont quasiment des narrateurs ou des narratrices d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut dire, puisqu'on est dans ce parcours thématique de la célébration du monde, qu'est-ce qu'on peut dire là d'un point de vue littéraire, Corentin Sur-l'Autruche ?
Il me semble qu'on peut voir la dimension tout à fait païenne et sensualiste du monde de Colette qui, en fin de compte, s'anime et un vivant, elle dira à la fin de sa vie, il n'y a qu'une bête pour faire le pont et la passerelle entre les êtres humains, la nature, les animaux. Et on se rend compte, à écouter cette prose, combien cette nature est riche, diverse. Il me semble également que, d'un point de vue de la célébration du monde, Colette a vraiment ce désir d'animer le monde et de laisser cette part. En fait, ce qui est frappant dans ce texte, c'est que l'humain s'éclipse quand même complètement derrière la nature.
Oui, et cette déclaration à M, elle passe par là. Vous disiez tout à l'heure que cette période-là dans laquelle elle écrit ses textes, donc 1905-1908, première publication d'Évry de la Vigne en 1908, c'est un moment charnière pour la vie de Colette puisqu'elle va quitter cet homme et embrasser ce nouvel amour, un amour homosexuel. Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que cette sensualité qui explose dans le texte comme on l'entend là, un peu plus tôt, il y a aussi un lit, on voit un lit blanc, la trace d'un corps rond, c'est un tournant dans les champs lexicaux utilisés, dans la valeur de la phrase.
Alors à mon avis, c'est un tournant dans l'œuvre. Tout cela est en germe dans la série des Claudine et dans les romans précédents.
C'est déjà là.
C'est déjà là. Mais par contre, avec Les Vrilles de la Vigne, on se rend compte qu'effectivement, c'est là avec encore plus d'insistance. Et Colette, subtilement, en a conscience, puisqu'en fait, elle va constamment crypter le texte. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour M, la dédicace est cryptée, mais il y a quand même ce besoin de revendiquer et d'adresser le texte. Ce qu'elle y adresse, c'est quand même la partie la plus secrète, son jardin d'enfant, au sens propre du terme. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose de la médiation. Colette est tout le temps quand même dans une médiation avec l'autre, avec l'altérité.
Oui, et cet autre-là prend plein de visages, donc à la fois c'est violette, oh violette, violette, qui ont plein de couleurs, qui sont changeantes, mais en lisant le texte, et peut-être aussi en sachant qu'on va se diriger vers l'autre texte qui est Sido 1930, il y a cette adresse, ce regarde, chose que lui dit beaucoup sa mère, elle lui transmet beaucoup la capacité, le désir d'observer du monde. Or là, le regard, elle l'adresse à son amante, Colette. Il y a aussi comme ça l'idée qu'il y a quand vous dites elle crypte, c'est-à-dire que cette adresse-là, et puis c'est nous, regarde, c'est nous, c'est les lecteurs, les lectrices, donc il y a même une adresse très plurielle, en fait, pour reprendre ce que vous disiez Marie-Astrid Claire, de la des mondes, c'est aussi des adresses, finalement.
Mm-hmm. Oui, absolument. Et c'est pour reprendre ce que vous disiez peut-être tout à l'heure à propos de la sensualité, parce que c'est vrai que ça apparaîtra pas dans Sido qu'on va aborder maintenant, mais ce texte, Nuit blanche, par exemple, évoque le lit, effectivement, et on voit que la nature est là encore pour évoquer les choses les plus sensuelles, parce que là, si je reprends mon exemplaire, et elle évoque l'agreste odeur d'herbe écrasée, qui peut dire si elle est mienne ou tienne. Et donc là, on voit qu'après avoir décrit l'odeur de cigare de son amante, elle a évoqué la sienne qui est liée au santal, et là, cette odeur d'herbe écrasée qui est la sienne ou la mienne. On voit qu'il y a une très grande sensualité et que la nature est convoquée jusque dans le lit des amoureuses.
Sensualité, sensorialité, il y a aussi l'idée, le mot m'échappe complètement à l'instant, quand on fait feu de tout bois, de tous les sens, c'est la synesthésie. Voilà, exactement, c'est qu'il y a la forme, il y a ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on est capable de toucher, tout est là, il y a une manière comme ça d'embrasser le monde qui est très importante. Est-ce qu'il y a dans, ou est-ce qu'on peut lire dans Les Vrilles de la Vigne, l'opposition campagne et ville, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on le souligne ou c'est plutôt dans Sido qu'on le retrouvera?
Moi, je n'opposerais pas nécessairement campagne et ville, mais il me semble que même quand elle est à Paris, elle regarde, et d'ailleurs, il y a une phrase dans Paris de ma fenêtre qui a été écrite pendant l'occupation, elle dit justement, nous ne regardons jamais assez juste, jamais assez passionnément, et elle observe justement les animaux de la ville aussi. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une opposition, j'ai l'impression que ce même regard...
Ça cohabite d'une certaine manière. On va se diriger tranquillement vers Sido.
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir. D'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens prennent vie au fond de mes yeux. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en paillettes.
Le Book Club, Marie Richeux.
Colette, c'est toujours ça, c'est-à-dire on croit qu'on arrive à la saisir, on croit qu'on arrive à l'attraper, et elle se retire. Et il faut une longue fréquentation, à mon sens, de ses œuvres, de ses livres, pour avoir une petite, je dis bien une petite idée, non pas de qui était Colette, non pas de qui était le personnage public, non pas de qui était la femme privée, mais de qui est l'instance qui écrit, qui est la personne qui écrit. C'est une figure d'ambiguïté, c'est-à-dire tous les visages qu'elle prend, tous les tours et les détours, il y a un seul geste d'écriture, et ce geste d'écriture, c'est sa vie, c'est la manière dont elle mène sa vie et dont elle la trace avec son œuvre. Et à l'intérieur de ça, la seule qui peut dire où elle se trouve, c'est elle-même.
Deux textes de Colette au programme de votre Book Club de France Culture aujourd'hui, car ils sont au programme du Bac français 2025 et on a bien l'intention de vous aider à préparer les épreuves. Nous avons parlé du recueil Les Vrilles de la Vigne, paru initialement en 1908 puis en 1934. Évoquons maintenant Sido, c'est un roman qui est paru en 1930. Comme on l'a fait tout à l'heure avec vous, Corentin Zurlo-Autruche, on a donné quelques éléments biographiques qui nous paraissaient intéressants pour peut-être savoir où en était Colette dans cette période de 1905-1908. Peut-être mentionner la date de 1912 et la mort de la mère de Colette.
Tout à fait. Sidonie Landois, donc, qui s'est mariée avec le capitaine Jules Colette, décède en 1912. Ce qui a beaucoup frappé la critique et les biographes, c'est que Colette refuse d'aller à l'enterrement, ne porte pas de deuil. Elle a un rapport tout à fait curieux, enfin ambigu avec la mort. En revanche, la mort de cette mère va quand même déclencher quelque chose qui était latent et qu'on a vu et entendu dans le texte de Violette. C'est la possibilité d'écrire sur son passé et de mettre en scène la mère comme personnage. C'est-à-dire que de Sidonie, on va passer à Sido, personnage de fiction. Elle apparaît dès 1922 dans La Maison de Claudine. Elle apparaît aussi à travers ses lettres dans un récit de 1928 qui s'appelle La naissance du jour. Et Colette, patiemment dans ses deux livres, va la mettre en scène et commencer à réfléchir sur l'héritage que Sido lui a laissé. Cet héritage, en 1929, elle en fait un texte qui s'intitule « Sido » ou « Les points cardinaux », qui est d'abord publié en livraison et puis qui va paraître aux éditions CRA sous une forme de plaquette « Sido » ou « Les points cardinaux ». L'année d'après, paraît « Sido » augmenté de deux autres chapitres. On a donc là, vous voyez, un processus au long cours, une écriture qui tâtonne ou du moins prend son temps pour arriver.
Mais c'est une maturation qui est liée à la profondeur du matériau biographique, vous diriez ? C'est-à-dire que c'est aussi le temps qu'il faut, après la mort de la mère, mais aussi à la manière de façonner sa propre écriture pour que ce soit possible ?
Exactement, je pense que l'archive de Emmanuel Lambert nous a montré qu'en fin de compte, Colette, par son écriture, devient petit à petit une sorte de creuset de temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, plus les années passent, plus les livres s'accumulent et plus l'œuvre se construit, le temps véritablement deviennent des pôles qui sont appelés à se rejoindre, le passé, le présent, mais aussi le futur. Colette était très portée sur l'avenir à travers les voyantes, par exemple. On pourra y revenir dans le chapitre consacré au capitaine dans Sido. Donc il me semble qu'effectivement, il y a ce processus mémoriel au long cours qui fait qu'il y a une instance qui écrit, qui est tiraillé, qui a besoin de faire se rejoindre passé et présent. On l'évoquait aussi tout à l'heure.
On a mentionné la structure particulière des Vrilles de la Vigne, donc est le premier texte auquel nous nous sommes intéressés parce qu'il est au programme de ce bac français. Vous mentionnez le chapitre consacré au capitaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure de Sido qui paraît en 1930 ?
Alors en 1930, donc, le livre paraît aux éditions Ferenczi en trois chapitres, ce qu'on pourrait appeler des chapitres, puisqu'en fin de compte c'est quand même un récit, aussi court soit-il. Le premier chapitre s'intitule Sido, il est donc le personnage éponyme donne son nom au recueil. Le deuxième,
c'est la mère.
Le deuxième s'intitule Le Capitaine, et là il s'agit du père de Colette. Et le troisième, plus crypté encore, Les Sauvages. Et là il s'agit de la fratrie, les deux frères de Colette et sa demi-sœur Juliette. En fin de compte, ces trois chapitres montrent comment Colette va réfléchir et mettre en scène la famille, mais toujours du point de vue de la mère et du point de vue de Sido. En fin de compte, le chapitre inaugural me semble amener assez logiquement le chapitre sur le capitaine et le chapitre sur les frères. La critique récente a montré que la parution de Sido en 1929 dans un périodique était agencée avec des photographies et que ces photographies ont en fait aussi amené logiquement à considérer non pas seulement Sido mais aussi à considérer le capitaine puis les frères qui sont aussi en interaction constante avec
la mère. Sous la même forme de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette construction par tableau, par album, par herbier. Finalement, on retrouve aussi des processus d'évocation. C'est à chaque fois comme des images. Un petit mot là-dessus, Maria Stricler.
Oui, ce qui ne semble pas évident, à mon avis, pour les élèves lorsqu'ils découvrent Sido, c'est vrai que s'ils sont accompagnés par leurs professeurs et qu'ils ont donc déjà un peu la connaissance du monde familial de Colette, je pense que c'est plus facile, mais c'est vrai que c'est assez crypté, en fait. Par exemple, le fait que le capitaine ait une jambe de bois, c'est pas du tout si évident. Enfin, disons que ça arrive comme une sorte de...
Le capitaine rien égale n'est expliqué. Le père, hein,
oui, rien n'est expliqué. Il a perdu une jambe pendant une bataille italienne. Et c'est vrai que ça n'est pas clairement dit, et donc c'est par le biais d'une petite incise qu'on le comprend. Et donc si on n'est pas informé déjà d'un certain nombre de choses, c'est difficile de comprendre, et ça donne l'impression que plutôt que de, c'est pas du tout un récit autobiographique dans le sens classique du terme, parce que c'est plutôt qu'elle ne raconte pas, elle évoque, mais elle évoque par petites touches et d'une manière un peu cryptée et sans longue continuité narrative.
Bon, là ça peut être le moment pour les élèves et pour les lecteurs et les lectrices, justement, d'avoir une réflexion sur le traitement de ce matériel autobiographique. C'est, vous le dites, de Sidonie, elle fait Sido, c'est un personnage, elle va créer, alors peut-être pas de la fiction, mais en tout cas, elle va créer de la littérature. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça et qu'est-ce qu'on peut en dire le jour de l'épreuve, par exemple ? Corentin sur l'autruche.
Je pense qu'il faut prendre en compte effectivement donc Sido comme personnage, et en tant que personnage, ça va donc être une instance, un être de papier qui va apporter dans le récit un certain nombre de qualités que Colette va lui prêter. Évidemment, ces qualités peuvent être différentes de ce que la personne biographique avait comme propre qualité. Donc, par exemple, on verra quelqu'un d'éminemment presque pythoniste, capable d'interpréter tous les éléments naturels.
Prêtresse.
Une sorte de prêtresse, exactement, qui dira même, Sido dira même à son mari, le capitaine, mais regarde, tu es trop humain, tu tends la main pour savoir s'il pleut. Bon, mais ce genre d'anecdote va participer de la composition d'un personnage qui va, voilà, donner des qualités ou montrer ses propres qualités. Il y a également la capacité à toujours s'occuper des autres. On a entendu tout à l'heure Colette dans l'archive qui disait j'ai élevé quantité d'animaux dans le jardin, mais c'est d'abord sa mère qui en fait élève ces animaux, et vous voyez comment Colette va se construire aussi en référence par rapport aux qualités de sa propre mère qu'elle met en scène ici.
D'ailleurs, il y a dans Sido tant et tant de scènes d'imitation, notamment, je crois, sur le rapport à la voix. J'avais la voix déjà aussi claire, et puis la mère qui lui dit « oui, c'est pas mal, mais tu n'y es pas complètement encore ». On parle d'une mère prêtresse, elle n'est pas qu'aimante ni douce avec la petite fille Colette dans Sido.
Non, elle n'est pas que douce, elle est même parfois, on peut être un peu surpris, et les élèves peuvent être surpris par cette espèce de brusquerie et cette avalanche d'impératifs qui sort de sa bouche. Il me semble effectivement que la mère est parfois un tout petit peu effectivement à la lisière de la violence ou de la brusquerie. Brusquerie qu'on rencontrerait dans différentes anecdotes, par exemple quand elle donne ses fleurs à un enfant et qu'elle s'extasie de le voir détruire ses roses avec une violence qui est quand même assez remarquable. Il faut dire aussi que ça participe de la célébration du monde. Sido disait à sa fille, Sidonie, la lettre réelle, la disait vraie. À sa fille dans une lettre « Comme moi, tu aimes les cataclysmes. » Et donc, il me semble qu'il y a à la fois les tempêtes, l'émerveillement d'un tableau très apaisant, mais il y a également les tempêtes.
Et puis, célébrer le monde, c'est être aussi en mesure d'en dire les tourments, d'en dire la noirceur et toute l'ambivalence, qui est un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant, mais ambivalence et paradoxe, ce sont des mots qu'on entend souvent quand on entend le commentaire de l'œuvre de Colette. Maria Stricler.
C'est vrai qu'il y a un épisode dans Sido où Sido dit à sa fille que tu es bête, que tu es jolie quand tu es bête, enfin quelque chose comme ça, qui est effectivement pas tout à fait aimable. Mais par ailleurs, c'est vrai que on peut aussi se demander par exemple la narratrice reprend les paroles de sa mère, s'il n'y a pas un peu d'ironie, si elle c'est vrai
elle que fabrique, elle prend éventuellement de la distance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, même si on pourrait également dire que sans doute quand elle livre ce portrait de Sido, c'est aussi son autoportrait qu'elle fait. Hein. Il me semble que ça apparaît nettement, que tout ce qu'elle dit de sa mère est comme une sorte de miroir qu'elle tend vers elle-même.
On écoute un extrait de Sido et c'est la partie Sido.
Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit, je demande « D'où vient le vent ?» À quoi l'on me répond « Il fait bien joli, c'est bien de passereau dans le palais royal, il fait vilain, un temps de saison. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflerant marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification comme la double haleine divergence d'un monstre amical. À moins que je me replie haineusement devant la bise d'est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du nord. Ainsi faisait ma mère. Coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. « Il va geler. La chatte danse, » disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi et elle captait des avertissements éoliens. « Écoute sur Moutier, » me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends ?» Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vannée sur ses vases verdâtres. Et j'attendais, quelques instants, que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Vous disiez tout à l'heure, Corentin Jure-Lautruche, qu'elle était aussi portée vers l'avenir, peut-être par le don de prédiction qu'elle prête à sa mère, presque magicienne dans cet extrait.
Exactement, tout à fait magicienne, capable d'interpréter les phénomènes naturels, capable de lire le monde, le ciel, et voilà. Et là, on a l'explication de ce sous-titre qu'elle y avait accolé en 1929, ou les points cardinaux.
Les fameux points cardinaux.
Exactement.
Le chapitre si joli se termine par le père qui arrive, il y a un seul être au monde. C'est dire l'unicité aussi de leur relation. Est-ce que c'est une relation qui... comment la décrire? Ça va arriver aussi dans le deuxième temps de Sido, le capitaine, ce couple-là, cet homme-là, qui aime Sido au-delà du temps amoureux, je crois, pour reprendre la formule, et qui s'intéresse assez peu à ses enfants, on pourrait dire ça, Marie-Claire?
Oui, alors moi j'ai surtout l'impression que c'est Colette qui s'est peu intéressée à son père et qui se rattrape d'une certaine manière en écrivant cette deuxième partie de texte et je trouve que c'est assez émouvant aussi ce passage là lorsqu'elle évoque son père et notamment cette anecdote d'une œuvre vierge laissée vierge parce que on peut voir encore à Saint-Sauveur les volumes de
avec des pages blanches
exactement et à la fin desquelles il y a simplement la dédicace à Sido. Et voilà, elle a pensé toute son existence, ou en tout cas, elle fait mine de penser toute son existence que son père a peut-être écrit quelque chose et en réalité, il ne l'a pas fait. Et c'est vrai que, pour revenir sur le couple que forment Sido et Colette, ou en tout cas tel qu'il est décrit, il est un peu mythifié parce que il est écrit que pendant 30 ans, ils n'ont jamais haussé la voix. Alors, j'ai pas tout
fait Sido et le capitaine. Pas Sido, vous avez dit Sido et Colette.
Oh, pardon.
Sido
oui,
et Sido le capitaine.
Et le père. Le capitaine, son mari. Et c'est vrai que c'est un couple sans nuages, jamais la voix n'a été élevée. Or, déjà chronologiquement, c'est pas possible que cette maison ait été pendant 30 ans habitée par. Enfin, elle n'a pas été habitée pendant 30 ans par ce couple, puisqu'ils ont quitté Saint-Sauveur-en-Puisaye plutôt que ça.
Donc elle écrit.
Il y a vraiment une sorte de mythification du couple aussi.
Un petit mot sur les sauvages éventuellement. Corentin Jure-Lautruche et la fratrie.
Oui, alors la fratrie, elle est en réalité composée de 3 personnes, enfin de 4 avec en comptant Colette elle-même. Il y a donc 2 frères et il y a une demi-sœur. C'est le texte va faire en sorte de présenter simultanément ces personnages-là en insistant un peu sur leur facétie, mais aussi sur leur incapacité à sortir eux-mêmes du jardin natal. Comme Colette, on a un peu l'impression, alors comme Colette, pas tout tout à fait, puisqu'elle elle va s'en émanciper, mais elle va y revenir par l'écriture, et eux, par contre, en revanche, n'y reviennent pas tout à fait. Le cadet, donc Léopold, elle le surnomme le Sylph, c'est un espèce de personnage comme ça, un peu en marge de la société, et qui est systématiquement appelé par la musique, par les sonorités. Il y a un très beau passage dans le chapitre dans lequel il va voir la narratrice dans les années 1920, et il lui dit, voilà, je suis retourné à Saint-Sauveur, et le récit accumule des anecdotes. Alors, il ne reconnaît pas les fleurs qui n'y sont plus, il ne reconnaît pas les animaux qui n'y sont plus, et en fin de compte, la chute du texte montre ce personnage disant, et tu te rends compte, la grille ne fait plus le même bruit, ils ont huilé la grille. Donc, vous voyez, un personnage très, très porté sur le passé.
Mais là aussi, tout un travail sur le mécanisme de la mémoire, la réminiscence, la recomposition du passé par l'écriture et par la littérature.
Exactement. Toujours ce souci de percevoir les personnages en médiation avec la mère et en médiation avec, effectivement, le jardin natal. L'autre personnage, qui est donc le grand frère, Colette va... présenter ce grand frère plutôt à la fin du récit, lorsque il se sera échappé du mariage de la demi-sœur et qu'il sera rentré pour justement être préservé, enfermé comme ça dans la maison. Il ne voulait visiblement pas assister au mariage de cette demi-sœur. Cette demi-sœur qui est donc celle qui est la moins représentée dans le texte, pour des différences biographiques, elle est celle que Colette a au fond un peu...
marginal, quoi.
Ouais. Oui, qui est un peu malmenée, en fait, hein, dans ce texte aussi. Et pour, effectivement, c'est aussi pas le même père, sans doute. Mais c'est vrai qu'elle est nommée l'agréable laide. Elle se marie avec un chien coiffé. Enfin, voilà, on entend une sorte de
le langage fleuri de tout à l'heure venimeux. Laisse la place à quelque chose d'un peu plus venimeux, en effet.
Oui, oui.
On va écouter la voix de Rémi, auditeur du Book Club. Il a découvert Colette et il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, alors j'ai découvert Sido et les Vrilles de la Vigne en première, donc à 17 ans. Pour moi, c'était surtout le récit initiatique vers une sensibilité esthétique et littéraire, parce que c'est vraiment un grand tableau impressionniste. Aujourd'hui, j'en ai vraiment cette image. Et finalement, Sido, c'est surtout une lecture qui pour moi est avant tout intime, parce que je sais que c'est un livre que j'ai osé, je sais pas si j'aurais dû, mais du moins que j'ai voulu offrir à ma mère, parce que ça arrivait à résumer un rapport complexe aux parents qu'on n'a pas forcément le pouvoir de dire à l'oral, ou du moins le courage. Et je profite de la présence des deux enseignants invités pour justement vous demander si ce rapport à l'intime, c'est quelque chose que vous osiez récupérer ou du moins réutiliser dans vos cours pour construire une approche peut-être plus sensible de cette œuvre, si justement ce rapport intime, c'est quelque chose que vous ressentiez chez les élèves, ou si au contraire c'était un peu délicat, peut-être inadapté dans le cadre scolaire. Merci pour votre réponse.
Merci à vous Rémi pour ce témoignage de lecture, de texte offert à votre maman, mais aussi pour cette grande question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'intime, qu'est-ce qu'on fait des échos qu'une œuvre peut avoir en soi, comment on les réinjecte dans sa lecture, que ce soit pour nous ici au Book Club, que ce soit pour une épreuve au bac. Marie Estricler.
Alors, dans la dissertation, malheureusement, même Niette. Si les... c'est pas... dans les textes, c'est pas interdit hein, de parler à la première personne. Mais en réalité, dans les faits, bon, c'est un peu déconseillé. C'est vrai qu'il est possible aussi de présenter cette œuvre dans la troisième partie de l'oral du bac français. Et là, on
peut plus s'engager éventuellement son ressenti plus intime.
Absolument, c'est même tout à fait la consigne. Oui, donc c'est possible effectivement de révéler ce que peut-être ce texte nous a suscité en nous, à qui nous l'a offert, à qui on a envie de l'offrir. Voilà, pourquoi pas.
Oui, et je pense qu'il faudrait peut-être essayer de voir que l'intimité, elle est en fait, au fond, omniprésente dans les textes. Et donc, elle entre directement en écho avec notre propre subjectivité. Le titre du parcours, mais aussi, je pense, par exemple, les tableaux des Vrilles de la Vigne, en fait, tracent en fil rouge une subjectivité, une intimité que Colette, au fond,
c'est là,
explore.
Donc, de toute façon, on ne fait pas de faute de lecture en invoquant son intimité. Peut-être la manière de le faire est une manière subtile de pas nécessairement ouvrir tout à fait son cœur à son examinateur ou dans sa dissertation. dissertation. Mais pourquoi pas, d'ailleurs sans forcément le raconter, mais se servir des effets de miroir que peuvent produire la lecture des textes de Colette sur soi.
Exactement. Et effectivement, se souvenir que le moment où elle écrit est aussi un moment où le roman va profondément se transformer. Et donc, on est à un moment où le roman va penser la subjectivité des consciences, la sensation que l'on peut observer dans son propre corps à la vue des phénomènes qui nous entourent. On le disait en début d'émission, effectivement, on peut aller se promener avec Colette. On peut effectivement aussi envisager son propre domaine natal, son propre domaine nourricier à la lumière des textes.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, comme chaque semaine, l'heure est venue de parler à ce micro de littérature jeunesse avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Mathilde, vous suivez pour nous l'actualité des parutions des livres pour la jeunesse et cette semaine, vous nous parlez d'un livre qui nous offre un petit séjour au vert.
Et oui Marie, je ne sais pas vous, mais moi, dès que le thermomètre dépasse les 15 degrés, à partir du mois d'avril ou de mai en somme, mon esprit rencontre quelques difficultés à penser à autre chose qu'à cette expérience prodigieuse qui s'appelle les vacances. Je le confesse avec une forme de honte, j'ai conscience de l'imprudence à le faire par ailleurs sur mon lieu de travail, mais c'est ainsi, mon esprit, ces jours-ci, rêve de voyage, de dépaysement, de nature, d'évasion. Ce qu'il y a de bien avec les livres, c'est qu'ils nous permettent d'assouvir ces envies que nos vies telles qu'elles vont ne nous permettent pas toujours de réaliser. Je vous parle donc aujourd'hui d'un album qui est d'autant plus réjouissant que c'est un tout premier livre, il est signé d'une jeune autrice, Alice Ourgan-Lian, apparue aux éditions Helium et possède un titre en forme de programme, Un long week-end en canoë. C'est l'histoire d'un père qui emmène ses deux enfants, Sacha et son grand frère Basile, pour une expédition de quelques jours. Le récit est conté en première personne par Sacha et prend la forme d'une succession de doubles pages qui chacune met en scène un moment, comme pris sur le vif, d'un séjour itinérant en canoë donc, d'une rive et d'un camping à l'autre. Un baptême pour les enfants qui n'ont encore jamais pratiqué cette activité, tandis que le père, lui, en a fait beaucoup étant plus jeune. Il y a un plaisir singulier pour un adulte à ressentir à la lecture d'un album, la réminiscence de sensations de l'enfance. Je ne saurais dire combien de fois, ni où et quand exactement j'ai fait du canoë, petite, pas très souvent je crois, mais je me suis souvenue, tournant les pages de ce livre, de ces gros bidons dans lesquels on mettait les affaires pour qu'elles restent au sec, des frissons quand on passait sur des rapides, de la chanson « on pagaie et où t'as mis la pagaie », de l'impression délicieuse que tout cela nous offrait et que l'on pourrait résumer par ces quatre mots « partir à l'aventure ». Expression qui pourrait d'ailleurs faire office de sous-titre à ce livre, car c'est la problématique qui le sous-tend tout entier. Qu'est-ce que l'aventure? Où commence et où finit-elle? Quels en sont les ressorts et les merveilles?
Mais alors en quoi ça consiste justement l'aventure dans cet album, Mathilde?
Elle commence avant même le départ, dès la préparation de l'expédition. Sur une grande double page, l'autrice a dessiné l'intégralité des objets qui vont être emmenés, du gilet de sauvetage au jeu de Uno, de la lampe de poche, au rouleau de PQ, des sacs de couchage, au réchaud à gaz. Quiconque a déjà pratiqué le camping ou la randonnée sait le plaisir qu'on peut prendre à faire rentrer dans un sac à dos l'ensemble du matériel utile et l'indicible satisfaction à se dire que cette fois, ça y est, on n'a rien oublié. Rien oublier, c'est ce dont cette ouverture rend compte avec beaucoup de justesse. Préparation qui se poursuit par une petite session d'entraînement sur le canapé du salon. On s'exerce à pagayer avec des balais, un coup à droite, un coup à gauche. Alors, le voyage en tant que tel peut commencer. L'aventure ici, ce sera donc devoir hisser tout le matériel le long d'une côte raide parce que papa a oublié que le camping était à 20 minutes à pied de la rive. Se prendre un coup d'arceau sur la tête au moment de monter la tente, aller aux toilettes la nuit et être soudain ravi de disposer d'un grand frère pour nous accompagner. C'est aussi observer les escargots, les pissenlits et les libellules, se laver dans la rivière, faire un feu de camp pour y faire griller des saucisses, croire entendre des loups la nuit, réaliser que ce sont en fait des grenouilles. L'aventure, c'est le jour où l'embarcation se renverse dans un rapide et où l'on finit sous l'eau. Il arrive aussi que les aventuriers en aient marre des aventures, qu'ils aient envie de rentrer chez eux et de s'enrouler dans une couverture, comme ce jour d'orage où le tonnerre gronde et où l'humeur s'assombrit, jusqu'à ce que soudain, comme par magie, le soleil finisse par revenir.
Ça me donne envie d'aller camper. De quelle manière cette autrice s'y prend-elle pour nous faire vivre l'aventure par la lecture, Mathilde?
Pour chaque scénette, qui est comme un petit condensé de temps et de sensations, l'autrice propose un style graphique propre. Grandes illustrations sur la totalité de la page ou effets de découpe, dialogue en bulles ou narration condensée dans la voix de Sacha, alternance des échelles. Très drôle aussi la manière dont est représentée l'irruption soudaine, alors que la petite famille progressait tranquillement sur la rivière paisible, d'une vingtaine d'enfants en colo, irruption incarnée graphiquement par des phylactères qui envahissent toute la page et dans lesquels sont inscrits les savoureux dialogues des ados qui hurlent en tous sens. Le tout est servi par un trait délicat et une gamme de techniques combinées, feutres, encre de Chine, aquarelles, pochoirs et tampons. Je voudrais pour conclure, Marie, vous décrire mes deux pages préférées. La première représente Sacha et Basile lovés au creux d'un hamac, le second lisant au premier un livre sur les oiseaux dont il égrène les noms chantants. L'autre nous montre Sacha et son père allongés par terre pour une petite sieste au bord de l'eau, les doigts de pied en éventail. De la petite radio à pile qu'ils ont emmenée avec eux sortent les paroles du fameux tube de Mungo Jerry « In the summertime when the weather is high ». Vous la connaissez, je vous dis pas la suite. Et Sacha de souligner en philosophe « Il y a des aventures avec des mystères énigmatiques, des aliens envahisseurs ou des dragons contre des chevaliers, mais il y a aussi des aventures tranquilles. Papa et moi, c'est celle-là que l'on préfère. Parmi les aventures tranquilles, celles que je préfère moi aussi, celles qui nous offrent ces moments où le temps semble soudain s'arrêter, il en est une merveilleuse. Elle s'appelle la lecture.
Ouais, quand on arrive à lire et être en vacances, Mathilde Wagner, ouais, c'est vraiment délicieux. Le bonheur. Merci beaucoup Mathilde, on rappelle le titre du livre ?
Le titre du livre, ça s'appelle Un long week-end en canoë et c'est signé Alice Ourgan-Lyon aux éditions Helium.
Et on peut vous réécouter sur franceculture.fr lecture jeunesse. À cette heure-ci dans le Book Club, on joue à chercher de la musique dans les livres. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On confie cette mission à nos auditeurs et auditrices, mais nous aussi, nous jouons. Et nous avons été chercher l'évocation d'un air musical dans la section Capitaine, donc ce deuxième chapitre de Sido, le roman de 1930 dont nous avons parlé. Et il y a de la musique qui plane. Rayons dorés, tièdes zéphyrs, fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi, elle ignorerait en l'entendant venir que La Roche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage et qu'un prête-nom du même La Roche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écroute malgré elle et ne l'interrompt pas. Merci beaucoup Marie-Astrid Claire d'avoir été avec nous pour évoquer ces deux textes, Les Vrilles de la Vigne et Sido de Colette. Merci beaucoup Corentin Zurlotruche d'avoir été avec nous. On mettra évidemment les livres et votre bibliographie précieuse sur la page du Book Club. Je l'ai dit, le Book Club, on se consacre sur le bac français avec cette série d'émissions pour vous aider à réviser. Mais il y a plus de 800 podcasts qui sont produits par les équipes de Radio France. Vous pouvez tout retrouver sur la page Réviser le bac 2025. Et franchement, moi j'aurais adoré réviser le bac en écoutant la radio, donc il ne faut pas s'en priver. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement à Louise Hoth aujourd'hui.